Et donc Schubert, qui mettra en musique des poèmes du divan occidental oriental, et Mendelssohn, et Schumann, et Strauss et Schönberg, eux aussi reprendront ces poèmes de Goethe l'immense. Et à côté de la comtesse Apponyi se trouve Chopin le fougueux, qui lui dédicacera deux nocturnes. Près de Hammer s'assoient Rückert et Maulana Jalaluddin Rumi, et Ludwig van Beethoven, leur maître à tous, s'installe au piano. On imagine Talleyrand, soudainement réchauffé par les poêles en faïence, s'endormir avant même que les doigts du compositeur ne touchent le clavier. Talleyrand, le diable boiteux, a joué toute la nuit. Mais pas de la musique. Aux cartes. Une petite banque de pharaons avec du vin. Beaucoup de vin. Et il a les yeux qui se ferment. C'est le plus élégant des évêques défroqués. Et aussi le plus original. Il a servi Dieu, servi Louis XVI, servi la Convention, servi le Directoire, servi Napoléon, servi Louis XVIII. Il servira Louis-Philippe et deviendra l'homme d'État dont les Français feront leur modèle. Eux qui croient sincèrement que les fonctionnaires doivent être comme Talleyrand. Des bâtiments, des églises inamovibles qui résistent à toutes les tempêtes et incarnent la fameuse continuité de l'État. C'est-à-dire la veulerie de ceux qui subordonnent leurs convictions à la puissance, quelle qu'elle soit. Talleyrand rendra hommage à l'expédition d'Égypte de Bonaparte et à tout ce que Denon et ses savants ont rapporté de connaissances sur l'Égypte antique en ordonnant que son corps soit embaumé à l'égyptienne, momifié, sacrifiant à la mode pharaonique qui a envahi Paris, mettant un peu d'Orient dans son cercueil. Lui, le prince qui avait toujours rêvé de transformer son boudoir en harem. Joseph Hammer ne s'endort pas. Il est mélomane. Il apprécie le beau monde, la belle compagnie, les belles assemblées. Il a un peu plus de 40 ans, des années d'expérience du Levant. Il parle 6 langues parfaitement, a fréquenté les Turcs, les Anglais et les Français, et apprécie, quoique différemment, ces 3 nations dont il a pu admirer les qualités. C'est un Autrichien, fils d'un fonctionnaire de province, et il ne lui manque qu'un titre et un château pour réaliser ce destin dont il sent qu'il est le sien. Il lui faudra attendre 20 ans de plus et un coup du sort pour hériter de Rheinfeld, de la baronnie qui l'accompagne et devenir von Hammer-Purgstall. Beethoven a salué l'assistance. Ces années sont bien pénibles pour lui. Il vient de perdre son frère Karl et se lance dans un long procès pour qu'on lui confie la garde de son neveu. L'avancée de sa surdité l'isole de plus en plus. Il est obligé d'utiliser ses énormes cornets acoustiques en cuivre, aux formes étranges, que l'on voit à Bonn, dans une vitrine de la Beethoven House, et qui lui donnent l'air d'un centaure. Il est amoureux, et d'un amour dont il pressent, soit à cause de sa maladie ou de la haute naissance de la jeune femme, qu'il ne donnera rien d'autre que de la musique. Comme Harriet pour Berlioz, cet amour est là, dans la salle. Beethoven commence à jouer sa 27e sonate, composée quelques mois plus tôt, avec vivacité, sentiment et expression. Le public tremble un peu. Il y a un murmure que Beethoven n'entend pas. Hammer raconte que le piano, peut-être en raison du chauffage, n'a pas tenu l'accord et sonne horriblement. Les doigts de Beethoven jouent parfaitement, et il entend intérieurement sa musique telle qu'elle devrait être. Pour le public, c'est une catastrophe sonore. Et si Beethoven observe de temps en temps sa bien-aimée, il doit s'apercevoir, petit à petit, que les visages sont envahis par la gêne, la honte même, d'assister ainsi à l'humiliation du grand homme. Heureusement, la comtesse Apponyi est une dame de tact. Elle applaudit à tout rompre, elle fait discrètement signe d'abréger la séance, et l'on imagine la tristesse de Beethoven, lorsqu'il comprendra de quelle horrible farce il a été victime. Ce sera son